Joël Cotec, bonjour.
Bonjour.
Je souhaiterais qu'on commence cet entretien en envisageant l'épaisseur historique de la haine des Juifs. Ça ne date malheureusement pas d'hier. Je dirais même, le mot antisémitisme est relativement récent. Est-ce qu'il faut parler avec un autre vocabulaire pour les périodes antérieures? Et peut-être, parce que l'antisémitisme a atteint son apogée avec le nazisme, est-ce qu'aujourd'hui, le mot antisémitisme, pour désigner la haine des Juifs, est toujours le meilleur mot?
Une très bonne question, c'est la question de base. Alors, est-ce qu'on peut dire oui et non? C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens utilisent un mot, pourquoi pas l'utiliser? Le mot est absurde en tant que tel, de toute façon. Oui, c'est un mot qui est daté, qui date du 19e siècle, qui a été inventé d'ailleurs par un antisémite, et donc qui désignerait la haine des Juifs en tant que race. Et les races n'existent pas, donc ça n'a pas de sens ce mot-là, mais comme c'est le mot utilisé par les antisémites, et même par les chercheurs en sciences sociales, etc., pourquoi pas l'utiliser? En revanche, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'il recouvre énormément d'acceptions différentes, de situations différentes, qui souvent n'ont pas tellement de rapport les unes avec les autres, encore que. Et donc moi, personnellement, ce que j'essaie de dire dans mes cours, c'est que jusqu'à l'an 1000 à peu près, il faut utiliser plutôt le terme anti-judaïsme, et à partir de l'an 1000, à partir des croisades, à partir de cette transformation qui fait des Juifs, non pas seulement les porteurs d'une religion concurrentielle et différente, mais les responsables des malheurs du monde, là, et où ça devient une haine totalement irrationnelle, à partir de ce moment-là, et donc dès le XIIe siècle, et pas au XIXe siècle, on doit utiliser le mot antisémitisme. Alors on pourrait aussi utiliser un concept plus global de judéophobie, mais bon, pourquoi pas utiliser ce mot-là, étant bien entendu que, un, c'est un concept polymorphe, et deuxièmement aussi, il est daté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'antisémitisme éternel, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est-à-dire que l'antisémitisme, même l'anti-judaïsme, faudrait-il dire, si je dois suivre ma propre explication historique, en fait, date de l'installation de deux religions concurrentes au judaïsme. Donc on ne peut comprendre l'antisémitisme ou l'anti-judaïsme que dans le cadre de la cité chrétienne et puis de la cité musulmane. Je pense que sous l'Antiquité, on ne peut pas parler d'antisémitisme. On peut parler peut-être d'anti-judaïsme philosophique.
Alors si on laisse de côté l'Antiquité, on arrive à l'époque, enfin en tout cas l'Antiquité lointaine, si on arrive à l'époque où le christianisme apparaît, et où par ailleurs les juifs sont chassés de Jérusalem, et se retrouvent en diaspora, tout autour du bassin méditerranéen en particulier, à partir de là, l'anti-judaïsme, c'est donc judaïsme, c'est-à-dire la religion juive, c'est donc une haine religieuse. Est-ce qu'on peut être un peu plus précis sur la nature de cette haine religieuse?
Alors c'est une haine religieuse parce que, en fait, quel est le problème? En fait, c'est une sorte de névrose, c'est-à-dire que les pères de l'Église ont un problème avec les juifs. Parce que les juifs sont quand même le peuple dont est issu le Christ, donc c'est pas n'importe quel peuple, c'est pas un peuple avec lequel on doit traiter comme on va traiter avec les autres hérésies ou bien les cultes païens, etc., donc qui sont simplement interdits, école philosophique comprise. Donc on a un rapport très particulier, et donc le peuple juif devient en quelque sorte à la fois un peuple tabou et en même temps un peuple totem. C'est pas n'importe quel peuple. Et c'est la raison pour laquelle les chrétiens vont conserver la Torah, ils vont conserver ce qu'ils vont appeler l'Ancien Testament. Donc, et c'est ce qui explique aussi que le peuple juif va se retrouver au bas Moyen-Âge comme la seule minorité en fait, religieuse et même comme l'expression de l'autre avec un grand A. Il n'y a pas d'autre. Et donc ce n'est pas pour rien que par la suite il deviendra le bouc émissaire. Et donc je dirais que l'antijudaïsme, c'est le fait de détester les juifs pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des juifs, c'est-à-dire des gens qui sont porteurs d'un message et aussi d'une espérance qui n'est pas celle du christianisme, puisque les juifs ne reconnaissent pas dans Jésus le Messie annoncé par les Écritures, et en même temps, ce sont les maîtres de ces Écritures-là. Et comme le christianisme, dans ses premiers temps, n'a pas totalement gagné sa guerre, il n'est pas encore totalement installé, il y a encore toute la question des païens à convertir. Donc il y a une sorte de concurrence et qui s'installe entre les premiers juifs et puis les premiers chrétiens qui sont souvent d'origine juive, et ce que j'appelle moi un contexte névrotique. Je crois que pour moi, l'antijudaïsme est une névrose, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on doit aux juifs, mais on ne veut pas le reconnaître. Et donc ce qu'on va, les pères de l'Église progressivement vont adopter comme solution ce qu'on appelle la théologie, la substitution. C'est-à-dire qu'ils vont reconnaître en quelque sorte la sainteté du peuple juif, mais en même temps, ils vont expliquer que le peuple juif, désormais, son message est caduc, que désormais, la nouvelle Jérusalem, ce n'est plus la Jérusalem terrestre, c'est la Jérusalem céleste, que la nouvelle Jérusalem, c'est Rome, ou par la suite, ce sera Byzance, Constantinople, ou Rome, que sais-je d'autre encore, que la nouvelle écriture, que la nouvelle écriture sainte, ce n'est plus l'hébreu, mais c'est le latin ou c'est le vieux slavon, etc. Donc il va y avoir toute une, ce que j'appelle donc véritablement une volonté de substituer et de démonétiser, en quelque sorte, l'héritage juif, tout en le conservant. Et c'est ce qui explique quand même la possibilité, là on est alors au 19e siècle, plutôt au 20e siècle, quand même une possibilité de guérison, c'est-à-dire qu'un chrétien peut guérir de l'antisémitisme. Il lui suffit de reconnaître tout simplement la réalité de sa névrose, et donc les récits, parce que, évidemment, tous les récits originels, c'est-à-dire que là, c'est-à-dire que les mythes chrétiens sont des mythes essentiellement juifs. Et ça, bien sûr, les pères de l'Église s'en rendent bien compte. Donc la première stratégie, c'est ce que j'appelle la théologie de la substitution, et la deuxième, c'est de frapper d'opprobre ces juifs-là, et là, c'est ce qu'on appelle, en quelque sorte, c'est ici que s'insère aussi un certain nombre d'écrits de saint Augustin, selon lesquels les juifs sont certes le peuple témoin, mais ils seront condamnés, pour n'avoir pas reconnu le Christ, à être à la fois dans la dispersion et dans l'humiliation. Et c'est ce qui explique que, pendant tout le bas Moyen-Âge, les juifs sont relativement intégrés. Je ne pense pas qu'on parle et qu'il y ait des traces véritablement de pogroms ou de persécutions, si ce n'est chez les Visigoths en Espagne. Mais on peut dire que jusqu'aux croisades, ben les Juifs ont une place au sein de l'Occident chrétien, une place d'autant plus importante qu'on est dans des situations extrêmement troublées et où les Juifs constituent en quelque sorte, dans une certaine mesure, peut-être la classe tertiaire, le secteur tertiaire. C'est-à-dire qu'ils occupent des fonctions qu'on ne peut pas ou qu'on ne veut pas donner au reste de la population.
Donc si je condense absolument le point de départ, c'est-à-dire cette époque où le christianisme s'étend, sans aller jusqu'à des catégories de type névrose, qui sont sûrement des catégories plus profondes que ce qu'on peut dire en surface. En surface, on peut dire, on va reprocher aux Juifs d'être un peuple déicide, ça va commencer. Ils ont en tout cas refusé de reconnaître Jésus, et donc après on dira qu'ils l'ont tué, premièrement. Et puis deuxièmement, on leur reproche aussi de ne pas se convertir, tout simplement, d'être le peuple, comme on dit parfois, à la nuque raide. C'est-à-dire des gens qui restent, voilà. Alors ça, on comprend bien, mais... À partir de quel moment va-t-on commencer à dire que les Juifs sont les responsables des grandes pestes, qu'ils empoisonnent l'eau des puits, qu'ils tuent des enfants non-juifs pour utiliser leur sang à l'occasion de telle ou telle fête, etc. C'est déjà à cette époque-là que se mettent en place comme ça ces rumeurs si terrifiantes ?
Non, justement pas à l'époque de l'antijudaïsme. C'est ensuite. Alors il y a une phrase qui résume l'antijudaïsme en fait. Pour bien comprendre ce que c'est Daniel Siboni qui... À mon avis, résume bien, s'il fallait retenir une phrase de ce qu'est l'antijudaïsme, c'est l'origine de la haine, c'est la haine des origines. En fait, c'est ça qui est fondamental. C'est-à-dire, tout simplement, les pères de l'Église, et là j'y reviendrai après, c'est aussi un peu le problème qu'auront les pères de l'islam vis-à-vis du judaïsme. Mais on peut dire que jusqu'à l'an 1000, jusqu'aux croisades, jusqu'à la renaissance en fait, de l'Occident, et pas une période de crise, mais une période de mutation vers le 11e, 12e siècle, encore une fois, et là on le voit bien dans les écrits de Blumenkranz, c'est-à-dire que les Juifs ont une place certaine dans l'Occident chrétien, et d'ailleurs dans la cité musulmane aussi. Et donc on ne peut pas parler de ces mythes qui, par la suite, dont vous avez parlé, qui sont des mythes qui font des Juifs les malheurs du monde. Ils ne le sont pas. Ça n'empêche pas que, et là vous l'avez évoqué, qu'il y a quand même en quelque sorte des prodromes. Et je pense que le mythe du déicide annonce en quelque sorte les malheurs qui vont suivre. Parce que ce que j'avais ici et ce que j'explique, c'est que l'antijudaïsme, c'est en quelque sorte une opposition raisonnée, théologique, hein, c'est le concurrent, c'est l'autre. Et donc la question, c'est de convertir les païens. Les païens seront-ils adeptes de Mitra, juifs, ou que sais-je, ou seront-ils ariens, mais l'arianisme bien sûr. Et donc il y a un contexte absolument de concurrence très forte entre toutes ces fois. Et donc il est un peu normal qu'on salisse la religion et la foi de l'autre, d'autant plus, encore une fois, cette religion matricielle. Alors il y a des discours très durs de l'Église, mais c'est de l'Église, c'est des pères de l'Église, il y a Jean Chrysostome, etc. Mais il n'en reste pas moins qu'au niveau politique, il n'y a pas de volonté d'écraser les Juifs.
Puis viennent donc, j'ai envie de dire, la sortie du Moyen-Âge, la Renaissance.
La mutation se situe avec les croisades. Et à partir de ce moment-là, alors peut-être mes catégories ne sont pas bonnes, mais je dirais que la névrose devient psychose. C'est peut-être un peu simple, mais j'aime bien utiliser cette image-là, puisque qu'est-ce qu'une névrose ? Ce qu'on dit souvent en école de médecine, c'est que pour un être normal, 1 et 1 font 2, pour un psychotique, 1 et 1 font 3, et pour un névrosé, 1 et 1 font 2, mais cette réalité le dérange. Et c'est ça l'antijudaïsme. L'antisémitisme, c'est autre chose. C'est quoi l'antisémitisme ? C'est non pas reprocher aux Juifs ce qu'ils sont ou ce qu'ils font, c'est-à-dire la Pâque, Pessah, ou aller Shabbat le vendredi, mais ce qu'ils ne sont pas. Et qu'est-ce qu'ils ne sont pas, les Juifs? Des ennemis du genre humain, des alliés du démon. Et qu'est-ce qu'ils ne font pas? C'est empoisonner les puits, provoquer la peste, s'allier avec les lépreux. Et ça, ce basculement-là, c'est au XIe siècle, au XIIe siècle. Et donc c'est à partir de ce moment-là, selon un certain nombre d'historiens, que bascule justement, que l'antijudaïsme bascule dans l'antisémitisme, et où le juif devient l'explication des malheurs du monde.
L'islam apparaît dans ce contexte, qui est d'abord un contexte qui se joue principalement entre chrétiens et juifs. Donc qu'est-ce qui se joue avec l'islam?
Mais un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est la même chose. Les récits matriciels qu'on trouve dans l'islam sont des récits qui sont tirés aussi par voie orale, qu'on retrouve dans le Coran. Et là, des récits qui sont un peu différents, donc avec des querelles qui ne sont pas faciles. Alors autant les pères de l'Église avaient inventé ce qu'on appelle la théologie de la substitution, donc le nouvel Israël, c'est l'Église. Alors là, les pères de l'islam ont trouvé une autre solution pour dépasser à la fois ce problème que moi j'appelle névrotique avec le judaïsme et avec le christianisme, pour expliquer les failles et les différences dans les récits. Alors la grande explication, l'exemple classique, c'est le sacrifice d'Abraham. Qui Abraham a-t-il sacrifié? Son fils, lequel? Ishmaël ou Israël? Et suivant la réponse, bien évidemment, mais tout va... Tout le reste n'est commentaire, c'est-à-dire si c'est Ishmaël, c'est le peuple arabe qui est le peuple saint, si c'est Israël, c'est le peuple juif, etc. Alors dans la Bible, la question ne fait pas problème, c'est effectivement le fils légitime, c'est Israël. Dans le Coran, on n'en parle pas, mais dans les hadiths, finalement, il y a la moitié des hadiths, une grande partie des hadiths qui disent non, ce n'est pas Israël, c'est Ishmaël, etc. Et donc c'est des questions très difficilement solubles. Et donc, petit à petit, justement, les pères de l'islam vont développer ce qu'on appelle la théologie de la falsification, selon lequel, en fait, tout simplement, les récits dans la Torah, mais aussi les récits dans les évangiles, sont des récits tout simplement falsifiés, parce que, en fait, la véritable Torah, les véritables évangiles, annoncent non pas Jésus comme Messie, mais déjà Abraham comme dernier prophète, et expliquent que Abraham, David, que pratiquement tous les prophètes juifs sont en fait des prophètes musulmans, et que Jésus n'est qu'un prophète musulmans et font jouer à Jésus le rôle de Jean-Baptiste. Jésus ne fait qu'annoncer en fait la venue d'Abraham. Et là, on est encore, je dirais, dans la théologie quand même, donc de la falsification, et on est encore dans l'antijudaïsme qui va perdurer en ce qui concerne le monde arabe jusqu'au XIXe siècle, où là, malheureusement, il va être rattrapé et où cet antijudaïsme, beaucoup plus tard qu'en Occident chrétien, va se transformer finalement en antisémitisme.
Donc on a deux immenses mouvements. L'un en monde chrétien, l'autre en monde musulman et arabe. On a ces deux immenses mouvements qui, sans se chevaucher, ou très très peu, qui parfois même d'ailleurs s'opposent l'un et l'autre aussi, mais vont fabriquer de plus en plus cette image du juif maléfique.
Fauteur de guerre, responsable des malheurs du monde.
Voilà, et ça, cette image, elle se construit vraiment à quelle époque? Elle s'impose vraiment complètement.
Alors, en Occident, c'est clair, 12e siècle. Alors 12e siècle, c'est d'abord avec les croisades, c'est-à-dire qu'il y a des textes de Raoul de Glaber, etc., d'un certain nombre de prédicateurs qui vont dire, ouais, nous allons combattre les musulmans, les sarrasins, mais parmi nous vivent des gens qui sont ô combien bien plus dangereux, etc., et ce sont les juifs. Et donc, en fait, les croisades commencent par les premiers pogroms en Occident. Et c'est les pogroms dans la vallée du Rhin, ou à peu près...
Oui, sur le chemin.
Sur le chemin. Et donc, c'est les premiers pogroms. Et les juifs eux-mêmes ne sont pas prêts. Et d'ailleurs, se défendent très mal. Et d'ailleurs, dans un premier temps, ils sont d'ailleurs protégés par les princes, parce que les princes ne veulent pas qu'on touche à leurs juifs. Alors, encore une fois, les juifs sont des citoyens, même pas des citoyens, ce sont des sujets de seconde zone, etc. Ce sont des esclaves, parce qu'on suit en quelque sorte, ce qu'avait annoncé, ce qu'avait proposé Saint Augustin, mais ces juifs-là sont pratiquement tous massacrés. Un célèbre massacre, c'est les massacres des juifs de Strasbourg, notamment, et ça va se terminer par la prise de Jérusalem, où l'ensemble de la communauté juive, ce qui reste la communauté juive de Jérusalem, sera exterminé jusqu'au dernier.
Ça, c'est donc 12e siècle, 13e siècle. Est-ce qu'on peut avancer, se rapprocher de la Révolution française?
Oui, tout doucement, mais encore une fois, pas du tout.
Je vais trop vite.
Non, mais parce que, alors, naît à ce moment-là toute une série de mythes absolument extraordinaires. C'est l'idée aussi que, comme par hasard, en 1144, et pas avant, on va avoir la première affaire de crime rituel. Donc, un petit enfant est découvert mort à Norwich, et plutôt que de l'imputer à je ne sais quel pédophile, plutôt que de l'imputer à je ne sais quel fou, quel, je ne sais, on ne sait pas, automatiquement, on va l'imputer, pour la première fois, à des responsables de la communauté juive, donc de la localité de Norwich, et on va bien sûr arrêter les responsables de la communauté juive, qui vont bien sûr être torturés, qui vont bien sûr avouer leurs crimes. Et ce qui est intéressant dans cette première occurrence, eh bien, on va déboucher déjà en quelque sorte sur l'idée de complot. Donc sur l'idée de juif maléfique, parce qu'en fait, c'est quoi un crime rituel ? Ben, tout simplement, c'est le rappel du déicide, puisqu'en fait, les juifs font vivre à ce petit enfant le crime abominable qu'ils auraient commis sur le Christ. L'idée de pratique maléfique, c'est-à-dire que les juifs ont besoin du sang pour la fabrication de leur pain, la matza, le pain azim, et l'idée de complot, c'est-à-dire qu'on découvre que ce seraient des juifs français de Narbonne qui auraient demandé aux responsables de la communauté juive d'Angleterre d'assassiner ce pauvre garçon, etc. Et donc pratiquement tout est là. Tout est là. Et ça me permet de revenir justement, je vous avais dit qu'il y avait les prodromes de l'antisémitisme. L'antisémitisme c'est quoi ? C'est reprocher aux juifs ce qu'ils n'ont pas fait. Et en quelque sorte, le déicide est un prodrome, puisque les juifs n'ont pas tué le Christ. Le Christ a été tué par un procurateur romain, il a été tué selon une procédure romaine, la crucifixion. En latin, il a été jugé, ou en grec. Et une des ruses, je dirais, des pères de l'Église, ce sera finalement tout simplement que ce seraient les juifs qui auraient été responsables de la mort. Et le fait de faire porter le chapeau du déicide sur les juifs est aussi une manière commode d'en exonérer les Romains qu'on doit convertir. Et donc c'est en ça qu'il y a une utilité aussi du fait juif. Et le fait d'avoir inventé un personnage ou d'avoir insisté sur un personnage qu'on appelle Judas, ben, Judas c'est qui ? C'est la Judée, c'est juif. Et donc ce serait le juif qui, pour de l'argent, il y a la fameuse question des 30 deniers, à la base d'un complot, le Sanhédrin, etc., le grand prêtre, aurait finalement été amené à sacrifier et d'avoir commis le crime des crimes. Et donc je dirais que on est en anti-judaïsme jusqu'aux croisades, mais que le déicide annonce déjà l'antisémitisme. Le problème, c'est qu'avec la déchristianisation, et là, je dirais qu'alors on peut faire des mauvais procès à Voltaire ou à certains encyclopédistes. Voltaire serait-il antisémite ou non ? Alors, je ne le pense pas. Il n'en reste pas moins qu'à partir du moment où on remet en question l'héritage chrétien, eh bien, un certain nombre de gens, ou de grands philosophes, ou de gens très érudits, qui n'osent pas vraiment s'attaquer à l'infâme, ou qui veulent attaquer l'infâme de manière indirecte, vont en quelque sorte rappeler que le christianisme est issu du judaïsme, et donc on est plutôt, je dirais, dans une sorte d'anti-judaïsme philosophique, en expliquant, et on est plutôt dans une sorte d'anti-monothéisme, qu'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui, chez des gens comme Michel Onfray, ou je ne sais pas d'autres, en disant que, en fait, l'origine de la haine ou des malheurs procéderait du monothéisme, donc, je dirais, du judaïsme. Et là, c'est peut-être le cas aussi, je dirais, de ces philosophes tels Voltaire. Alors, de manière générale, l'émancipation, bien sûr, c'est la chance des Juifs, parce que les Juifs, avant l'émancipation, n'ont absolument aucun droit. Et donc, l'émancipation va libérer les Juifs de leur chaîne, mais en même temps, c'est aussi leur malheur, parce que l'émancipation va se retourner, en quelque sorte, contre les Juifs. Et là, c'est une chose peut-être un peu rapide aussi, qu'il faudrait développer de manière sans doute plus précise. Mais ce que j'ai remarqué lorsque je m'intéresse aux périodes où les Juifs ont été en général relativement bien intégrés dans la société où ils étaient, c'est qu'ils ont d'abord une tendance à l'assimilation, ce qui est une certitude, et aussi une tendance plus forte au rejet. C'est souvent le Juif intégré qui fait peur. Et il y a quelques moments qui permettent de l'expliquer. Alors bien sûr, le 19e siècle, au moment où les Juifs sortent du ghetto, et donc où les Juifs commencent à s'insérer dans la société, et de manière fort réussie, c'est normal, puisque n'ayant rien, ils ne peuvent que réussir l'intégration aussi, et puis que la réussite de quelques-uns va finalement faire peur à la multitude des gens. Et donc on aura l'impression assez rapidement, en tout cas dans certains cercles, mais aussi bien situé à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche, c'est que la modernité n'est pas seulement une chance pour les Juifs, mais elle est presque la création des Juifs, et que les Juifs seraient en quelque sorte les inventeurs de la modernité. Et qu'est-ce que la modernité ? Tout simplement la volonté de casser l'ordre ancien. Et c'est ce qui explique qu'on va se retrouver au sein du monde catholique, dans les milieux conservateurs, etc., un nombre extrêmement important de penseurs qui vont considérer que la Révolution française est l'œuvre des Juifs, etc. C'est de Baruel, notamment.
Et ça continuera avec la Révolution soviétique.
Donc toute cette idée, alors là, c'est au sein des milieux réactionnaires. avec bien sûr le prototype des protocoles des sages de Sion, mais aussi à l'extrême gauche. Hein, chez les premiers socialistes hein, ou chez les anarchistes, on retrouvera l'idée, parce qu'il y a une réussite des Juifs, effectivement. Les Juifs réussissent bien, mais comme les femmes réussiront bien au moment de leur émancipation. Et donc cette idée que le capitalisme, etc.
est, ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est que les Juifs, on leur fait porter, si je peux dire, le chapeau de tout et du contraire de tout.
C'est
ça, on va les accuser de réussir et on va leur reprocher des masses pauvres, misérables, archaïques. On va leur reprocher une grande modernité, on va leur reprocher d'être un obstacle à la modernité selon les situations. Et donc ce que cette haine des Juifs, c'est quelque chose qui fédère des images, des préjugés, des représentations qui n'ont aucune unité réelle, enfin, je veux dire, qui part dans tous les sens, mais tout ça est complètement conjugué,
c'est
condensé.
C'est pour ça que je considère qu'il faut absolument séparer le racisme de l'antisémitisme. Je crois que l'antisémitisme concerne très peu les Juifs. L'antisémitisme est quelque chose de... C'est un fait de société. On pourrait dire, moi j'appelle ça en quelque sorte une maladie sociale qui n'a rien à voir avec les Juifs, mais qui a tout à voir avec les sociétés qui sont soit en mutation, soit en crise. Et ce que j'expliquais, les pires moments d'antisémitisme sont les moments où les Juifs sont pratiquement invisibles. Alors le premier moment, c'est l'Alexandrie, l'époque de Philon. Donc on est quand même au 1er siècle, on est sous l'Antiquité. Alors est-ce que c'est de l'antisémitisme? Ça va un peu à l'encontre de ce que j'avais dit en débutant. Mais ça, c'est à ce moment-là où les Juifs sont tellement déjudaïsés qu'ils en viennent à vouloir traduire la Bible en grec, c'est la version des Septante. Et là, il y a à peu près un tiers de la population d'Alexandrie qui est de confession juive. Et c'est là que débutent, à l'époque de Néron, finalement les premiers grands échauffourées entre juifs et chrétiens, entre juifs et païens, excusez-moi, entre juifs et païens. Puis il y a aussi un problème aussi, un moment qui est quand même important au sein du monde arabo-islamique, c'est dans l'Andalousie. Les Juifs sont extrêmement bien intégrés dans l'Andalousie, mais tout se termine finalement mal avec les Almohades, et vous avez notamment le départ de Maïmonide, qui est obligé de quitter l'Espagne, puisque finalement à la fois l'Espagne et le Maroc sont pratiquement vidés de leurs Juifs, et Maïmonide va se retrouver auprès de Saladin. Et puis il y a l'épisode, bien sûr, de l'Espagne chrétienne, où là aussi, les Juifs sont extrêmement bien intégrés, parlent l'espagnol, au point de le parler jusqu'au XXe siècle. On retrouve encore des traces de judéo-espagnol à Salamique aujourd'hui.
C'est ce qu'on appelle le ladino.
Oui, ou le judéo-espagnol, c'est ce que certaines personnes nous disent exactement. Et puis, bien sûr, la République de Weimar, qui sont aussi encore une période de symbiose absolument extraordinaire. Et donc, je dirais, ce qui caractérise, encore une fois, l'antisémitisme, c'est ce côté, je dirais, totalement irrationnel de la haine. C'est-à-dire que la haine se nourrit d'elle-même, et la haine cherche un prétexte pour pouvoir isoler ces gens qu'elle ne perçoit pas réellement. Et c'est la raison aussi pour laquelle les Juifs doivent, lorsqu'ils sont... ils doivent être marqués, tellement qu'ils sont ressemblants. Et je dirais, et moi aussi, ce que j'essaie d'expliquer à mes élèves, c'est que ce qu'exigent en fait d'abord les Juifs, ce n'est pas forcément le droit à la différence, c'est le droit à l'assemblance. C'est ça, principalement le droit à l'assemblance, si on regarde toute l'histoire. C'est le droit à ressembler, pourquoi pas. Et lorsqu'on voit les représentations de Doura Europos, on voit que les Juifs et les mystiques étaient habillés en grec. Lorsqu'on voit des peintures flamandes de Van Eyck, on voit que les Juifs flamands étaient habillés à la flamande, etc. Et c'est la raison pour laquelle on va inventer au sein de la civilisation musulmane la ceinture jaune pour différencier un juif d'un non-juif. Au sein de la civilisation chrétienne, on va leur mettre la rouelle ou un chapeau pointu. Et finalement, que les nazis vont être amenés à inventer et à leur faire mettre l'étoile jaune pour différencier un juif d'un non-juif, alors que, à croire leur caricature, le juif serait reconnaissable à première vue.
Alors, on en arrive au nazisme. Il y a quand même là l'idée d'une race avec des attributs physiques, ce qui est quand même quelque chose qui existait certainement avant, mais là qui se durcit. C'est la fameuse exposition à Paris, où on vous explique comment est un juif physiquement. C'est quelque chose qui se préparait longtemps à l'avance, cette image de la race juive, avec des attributs physiques, la forme du nez, la chevelure, que sais-je.
À partir de la naissance de l'antisémitisme, à partir du XIIe, XIIIe siècle, pendant la période que j'appelle anti-judaïque, le juif est représenté de manière totalement, en quelque sorte, normale. Il n'est pas stigmatisé physiquement. Dans les tableaux, dans la statuaire, lorsqu'on voit la synagogue, par exemple à Strasbourg, face à l'église, ben, la juive est représentée, la synagogue est représentée comme une belle juive. Donc, il n'y a pas de trait, il n'y a pas de phénotype juif particulier. À partir du XIIe siècle, le juif commence à avoir des attributs spéciaux. et on le retrouve dans la peinture, et notamment la manière dont Judas est représenté. Judas a un nez busqué, etc. Et Judas, c'est la laideur face à la beauté du Christ, par exemple. Et ça se prépare. Et puis on va retrouver, lentement mais sûrement, pas la caricature, mais dans la représentation du juif dans certaines enluminures, et puis dans les représentations qui suivent luthériennes, etc., le juif représenté comme un porc. Et puis on va arriver à, bien sûr, à la naissance de l'illustré, à la naissance des journaux, de la caricature au XIXe siècle en France, avec l'ACMÉ, avec la libre parole, etc., d'Édouard Trumont. Et les nazis ne vont faire que reprendre, en quelque sorte, s'inscrivent, disons, dans cette pesanteur historique qui font des juifs des êtres mauvais à l'intérieur, donc laids à l'extérieur aussi, en quelque sorte. Et je dirais que l'invention du racisme n'est que une forme, je dirais, modernisée de cette démonologie médiévale. Comme les juifs maintenant, comme la religion n'a plus tellement d'importance, il faut bien trouver une autre explication pour les refuser. Et l'autre explication, ce sera, bon, ils sont peut-être chrétiens, ils ne sont peut-être plus juifs au sens religieux du terme, mais ils sont racialement autres.
Alors évidemment, on est obligé d'avancer dans le temps, mais après la Seconde Guerre mondiale, on commence à comprendre assez tardivement, je pense, ce qui s'est passé, la destruction des juifs d'Europe, et on peut se dire, ça va mettre fin à l'antisémitisme. Il y a une phrase très célèbre de Sartre qui dit, avant-guerre, l'antisémitisme, c'est une opinion. Après-guerre, on sait que c'est un crime. Et donc, on peut espérer que l'antisémitisme va régresser, décliner. Qu'est-ce qui explique qu'il renaisse ou qu'il reparte, peut-être essentiellement depuis les années 60 ou 70 ou 80? Comment est-ce qu'on peut réfléchir à ça?
C'est la question la plus difficile que vous posez, bien évidemment. Alors, je dirais, ça dépend à quel niveau on se situe. Je dirais qu'au niveau global, au niveau de la société en tant que telle, je dirais la société, si on peut dire comme ça, d'origine chrétienne, je ne sais pas si on peut dire ça, je dirais que l'antisémitisme est quand même en régression. Je dirais qu'on n'est plus du tout dans les schémas d'avant-guerre. Je pense que, et heureusement, je pense que les gens ont appris les leçons de la Shoah, et puis il y a eu un travail de réflexion de l'Église.
Le Concile.
Exact. Et je pense que justement, dans une grande mesure, les chrétiens ont guéri de leur névrose. Je pense qu'on peut guérir des névroses. Le problème, c'est la psychose. C'est dans ça que ça peut. C'est pas inintéressant, je dirais, mon analogie. C'est une analogie, mais elle n'est pas inintéressante. Et je pense que si on regarde les grandes enquêtes, et là vous êtes plus spécialiste que moi, vous voyez bien quand même qu'au niveau global, par rapport à ce que feriez-vous d'avoir un gendre juif, etc., 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 je pense que c'est en décroissance. Malheureusement, comme nous sommes en période de crise, et je crois que l'antisémitisme est, je crois, une expression des moments de mutation et des moments de crise, et nous sommes en pleine crise et en pleine mutation, on est dans la quatrième révolution industrielle, etc., on est dans des périodes extrêmement troublées, et donc c'est pas étonnant que dans ces périodes-là, les Juifs redeviennent en quelque sorte tout simplement les exutoires des peurs des populations, et donc que l'on retrouve une libération de la parole, non pas dans la majorité de la population, mais quand même au sein, je crois, d'une tranche assez importante, et qui ne se gêne plus d'exprimer effectivement un certain nombre de choses qu'elle avait eues pendant cette parenthèse de la Shoah. Et puis, évidemment, il y a aussi le fait qu'au sein du monde arabe, sans doute suite à la création de l'État d'Israël, et aussi compte tenu aussi du fait qu'il y avait un rapport très spécifique des Juifs au monde arabe, etc., fait qu'il y a, on peut dire, un antisémitisme d'importation.
Si on regarde le cas de la France, et je pense que la Belgique, ça ne doit pas être très très différent, effectivement, l'antisémitisme régresse dans le monde chrétien, et il apparaît dans un univers qui est plutôt musulman. Pas seulement d'ailleurs.
Mais non, pas seulement.
Pas seulement. Et donc, c'est intéressant de se dire, est-ce qu'il y a des causes sociologiques? Est-ce que c'est parce que ces gens-là sont plus pauvres que d'autres? On peut introduire un raisonnement géopolitique, la relation avec Israël, l'identification à la question palestinienne, et j'ai envie de dire aussi le retour du religieux, le côté islamisme, je ne dis pas islam, mais islamisme, qui quand même met la haine des juifs au cœur de son discours.
Mais je dirais même dans une certaine mesure islamique, puisque c'est en ça que l'histoire est intéressante, c'est-à-dire le fait que, toujours cette question de la substitution, cette question aussi du mépris, le juif était très méprisé dans la société musulmane. C'est ce que montre notamment Georges Bensoussan. Il n'est pas persécuté peut-être comme il l'était dans la société chrétienne, mais il est méprisé. Et puis cette étonnante réussite, non seulement l'État d'Israël, qui est un petit État qui, jusqu'à présent, a réussi à se préserver et à même à contenir, ou que sais-je d'autre encore, ses voisins, mais aussi la réussite, je dirais, des juifs français au sein de la société française, qui peut, dans une certaine mesure, causer problème. Et puis, je crois que comme nous sommes en situation de crise, je pense que l'antisémitisme a ceci de particulier, c'est qu'il permet de concentrer en quelque sorte la rancœur des gens vers tout simplement une idée simple. Ben, si ça va mal, ben, c'est la faute des Juifs. Comme on dirait aujourd'hui, c'est la faute de l'Europe. Hein, l'Europe et les Juifs, ou les femmes, concentrent en quelque sorte les rancœurs des gens, parce que ce sont des raccourcis assez forts, et on le voit bien. Et donc on revient en quelque sorte, je dirais, au discours de la fin du 19e siècle, où on avait quand même une extrême gauche antisémite qui aujourd'hui se dirait antisioniste, et une extrême droite antisémite qui aujourd'hui se dit antisioniste. Et moi je regarde beaucoup les sites conspirationnistes, et on peut dire qu'en quelque sorte, Soral et Dieudonné concentrent, et ce sont les nouveaux Drummond, je dirais, de notre période actuelle. C'est-à-dire que c'est une sorte d'antisémitisme social.
Voilà, mais ça c'est pas un antisémitisme religieux.
Absolument pas.
Alors qu'on peut dire qu'il y a peut-être aussi, dans certains secteurs qui se... C'est pour ça que je vous parlais de l'islamisme, oui, il y a un instant. J'avais été très impressionné par les analyses, en particulier de Mark Sedgman, qui est un psychiatre américain qui a étudié le discours des islamistes les plus radicaux. L'antisémitisme, c'est le cœur de leur haine, et donc là, on est au-delà du social. Ou on est ailleurs, on n'est pas dans du pur social.
C'est pour ça que moi, je parlerais plutôt de code culturel. Pour moi, je pense que la culture est la chose la plus importante qui soit. Parce que je pense que, bien sûr, un discours d'exclus, certainement, mais si tous les exclus devaient être antisémites, la société véritablement ne serait pas vivable. Je pense qu'il faut qu'il y ait un substrat, je dirais, culturel, pour pouvoir expliquer ça. Il faut que ce soit inscrit dans le très long terme, et qu'un certain nombre de choses reviennent. Et, encore une fois, il est commode de faire des Juifs, qui en fait sont plus mythiques et imaginaires, de faire des Juifs les responsables du monde arabe aujourd'hui, comme on les a fait les responsables de la défaite allemande de 1918, ou responsable, je ne sais pas quoi, d'un certain nombre de problèmes, de la peste notamment.
Oui, il y a quand même une chose qui est récente, me semble-t-il, c'est que ces Juifs qui sont donc détestés, soumis à une telle haine, on ne les définit plus du tout en termes raciaux, physiques. Je veux dire qu'on ne les dessine plus comme on les aurait dessinés sous Hitler. Et donc, est-ce qu'on peut garder là encore ce mot d'antisémitisme, ou cette idée même d'antisémitisme?
Justement, puisque je vous ai expliqué que pour moi, l'antisémitisme n'est absolument pas lié à la question raciale. Pour moi, l'antisémitisme, c'est le fait de dire que les Juifs sont responsables des malheurs du monde, du « what went wrong ». Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, c'est le Juif, et par la suite, ce seront les femmes, les sorcières, etc.
Mais...
Alors, et ça peut être le Juif racial, ça peut être le Juif religieux, ou ça peut être le Juif riche, le Juif esclavagiste, que sais-je d'autre encore. Donc tout ça ne sont que des prétextes, en quelque sorte. C'est-à-dire que l'antisémitisme a une plasticité qui permet effectivement toute explication. Mais l'intérêt, c'est la cible qui reste la même. Et qu'on soit à l'extrême gauche, à l'extrême droite, dans la confrérie Saint-Pie-XII, etc., donc chez les catholiques intégristes, ce qui est important, c'est que le Juif est l'ennemi et on trouvera toujours la cause.
Il y a un dernier point sur lequel je voulais discuter, c'est que si on prend un pays comme la France ou la Belgique, il y a quand même quelque chose de neuf, qui est qu'on a assisté ces derniers temps à des actes meurtriers. Jusque dans les années 50, 60, 70, non. Je dirais même l'attentat de la rue Copernic à Paris, c'est des gens qui sont venus d'ailleurs pour tuer. L'affaire de la rue des Rosiers, c'est pareil. Autrement dit, il y a quelque chose qui est en branle dans un pays comme celui-ci, où on voit un Fofana tuer quelqu'un qu'il a kidnappé parce qu'il pensait qu'il était riche, parce qu'il était juif, et on voit des attentats contre un hyper-cacher, on voit l'affaire du musée juif de Bruxelles, où il y a des morts. Autrement dit, est-ce que le côté meurtrier de cette forme actuelle de l'antisémitisme ne doit pas être source de réflexion particulière par rapport à ce qu'on a connu en d'autres temps?
Plus que de réflexion, une source d'angoisse. C'est-à-dire que la question que se posent quand même beaucoup de gens, est-ce que la situation finalement relativement favorable qu'on a connue depuis 1945 jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'elle ne serait pas en quelque sorte une parenthèse dans l'histoire? Je ne veux pas non plus considérer l'histoire du peuple juif comme une histoire absolument catastrophique ou portée uniquement sur le malheur, mais c'est vrai qu'on retourne à des formes de violence qu'on croyait totalement oubliées, abandonnées, impossibles, et on en a fait face. Vous avez parlé de Fofana, il y a l'attentat du musée juif, et en fait, on revient un peu à mon code culturel, en quelque sorte, les Juifs constitueraient en quelque sorte l'essence du mal. Mais en un sens, La persécution des Juifs annonce des temps mauvais, non seulement pour les Juifs, mais finalement pour l'ensemble de la société. Hitler s'en est pris aux Juifs, et la Seconde Guerre mondiale, je pense, c'est 50 millions de morts, donc bien au-delà de ces 6 millions de morts juifs. Donc c'est en ça que l'antisémitisme est un phénomène qu'il faut absolument étudier. La persécution des Juifs n'annonce que, à mon avis, des temps dangereux.
Je suis assez d'accord, ça pourrait être une superbe conclusion, c'est l'idée que le malheur des Juifs, c'est le malheur de la démocratie, c'est le malheur du vivre ensemble, c'est
exactement.
Le malheur à l'échelle de la planète, de la capacité des humains à se supporter les uns les autres et à vivre ensemble.
Exactement.
Merci Joël.
Moi qui vous remercie.